Centrale, ici sonar, j'enregistre une chute d'intensité signale. La cible est en train de changer d'aspect.
Confirmé, la cible amorce une manœuvre.
Alerte sonar, vivant le fou.
On est ici, tous les deux. Toi et moi, comme deux types vraiment ordinaires. Toi, tu fais ton truc, comme tu le sens, et de mon côté, je fais la même chose. Et bien qu'on soit vu face à face. Si je suis là-bas, et si je dois te neutraliser, ça me plaira pas. Mais je le ferai.
Allez l'avertir! Allez lui dire que j'arrive! Dites-lui que j'arrive, putain de merde!
Salut à Hello, tous, ça y est, on arrive. Quel magnifique générique, vous écoutez.
Et quand je l'écoute,
le masque et la tronçonneuse, hein. Qu'est-ce qu'il y a?
C'est l'année dernière.
Hein? Non, il est très bien celui-là. Donc voilà, vous écoutez le masque et la tronçonneuse. Bonjour, bonjour monsieur masque.
Bonjour monsieur tronçonneuse, mais c'est l'inverse, cher ami.
Ah bon?
Vous ne savez plus comment vous vous appelez. Rappelez-vous, l'année dernière était votre année.
Ah oui, c'est vrai, c'est pas faux. Cette année aussi, l'année prochaine sans doute.
Voilà. Ça dépend. L'année prochaine, c'est les élections, hein. Ça va être l'année de la tronçonneuse.
Oui, ou du verre de nez.
Donc sur l'autre radio, 105.7.
Tout faux, 107.9 à Château-Gontier et 101.7 à Laval. Voilà. Donc,
Je sais, j'ai confondu avec www.l'autreradio.fr.
Oui, avec un tout nouveau site web qui déchire ça. C'est pas mal quand même. il est plutôt sympa, il est très accueillant, il est vraiment ergonomique, il a été pensé, réfléchi.
Il est inclusif.
Il est inclusif. Je dirais même, Yel est inclusif.
Yel est inclusif, il est woke. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous anime pas mal dans nos conversations en off, très souvent, c'est les films que l'on ne verra jamais parce qu'ils ont été avortés, pas tournés.
Bah c'est un sujet qui est très raccord avec l'émission, puisque avec la base de l'émission, parce que la base de l'émission, c'est quand même on parle des films qu'on aime, des films qu'on n'aime pas, des films qu'on aime ne pas aimer, et des films qui, malheureusement, enfin, on a un peu honte d'aimer comme ça. Et là, on va parler des films qui ne se sont pas faits. Et
finalement, on n'aura pas à les aimer.
On n'aura pas à les aimer. Mais sur le papier, certains s'annonçaient comme très très bien.
C'est très clair.
Et certains, on est sûr qu'on ne les verra jamais.
Finalement, général, on va rajouter l'adage, les films qu'on regrette de ne pas pouvoir aimer, alors.
C'est ça. Après, dans cette série-là, il y a aussi les films qui, pendant longtemps, n'ont pas pu se faire, qui finalement se sont faits, et qui finalement, dans beaucoup de cas, on a regretté que ça se soit fait. Quoi. Mais bon, c'est autre chose. Voilà. Donc, est-ce que je te laisse la priorité?
On peut dire, c'est qu'il y a quand même deux films dont on a beaucoup parlé dans le genre, parce qu'ils ont donné quand même lieu à des making-of, c'était The Man Who Killed Don Quixote de Terry Gilliam, qui avait donné Lost in La Mancha, et puis le Dune de Jodorowsky, qui est complètement d'actualité avec le film de Villeneuve. Et ces deux films-là nous ont amenés très souvent à creuser un peu le filon, et on a découvert d'autres pépites, cher ami.
D'autres pépites, ouais. Parce que dans le genre film maudit, L'homme qui tue à Don Quixote, c'est quand même... je pense que c'est... C'est au top parce que c'est Jodorowsky. Il y a eu plein de choses qui ont été pensées, prévues, mais le film en lui-même n'a jamais été tourné. Mm. Alors que L'homme qui tue à Don Quichotte, c'est un film qui n'a pas pu se tourner. Donc,
adaptations de Don Quichotte. Orson Welles s'était cassé les dents aussi avant.
Et là,
qui ont été avortés.
Et là, c'était la première tentative de Terry Gilliam en 2000 avec Jean Rochefort et Johnny Depp. Donc là, c'était une cata, problème de santé de Jean Rochefort.
Et c'était comment... Cassie Jones, c'est pas ça, il me semble.
Il avait des problèmes de dos aussi, alors que c'est un amoureux du cheval, donc c'était un rôle pour lui. En plus, le physique, il avait le physique. Et puis, donc le film a été, comme tu dis, est tombé à l'eau, alors que le tournage avait vraiment bien commencé. Et puis, il y a eu plusieurs autres projets par Terry Gilliam. Et puis finalement... Finalement, c'est le dernier projet qui a été mené à bout, celui avec Jonathan Pryce et Adam Driver. Mais il y a eu d'autres projets, notamment avec John Hurt et Jack O'Connell, ou encore avec Robert Duvall et Owen Wilson. Donc, voilà. Et Terry Gilliam est quand même le spécialiste des films maudits.
Et des
tournages. Voilà.
Eh bien, puisqu'on parle de Terry Gilliam, allez, je te propose de, d'amorcer le truc avec le film Watchmen, Les Gardiens. Bien connu, hein, ce film-là. C'est un film de Zack Snyder, qui était l'adaptation d'un comics, enfin, ce qu'on appelle un roman graphique, qui s'appelait Watchmen. Eh bien, Terry Gilliam s'y était frotté avant, avec un casting prévu assez fou. Hein. Il y avait Arnold Schwarzenegger, Sigourney Weaver, Jamie Lee Curtis, Robin Williams, Richard Gere et Gary Busey, donc du beau monde. Et puis, la fin du comics, il lui semblait un peu compliqué. Alors déjà, il a pris énormément de liberté par rapport au comics en lui-même. Gilliam, de son propre aveu, n'y croyait pas trop parce qu'il voyait ça plutôt comme une mini-série plutôt qu'un film. Le financement n'a pas été suffisant. Bah, avec une tête d'affiche aussi garnie, il fallait pouvoir allonger les billets. Et puis finalement, Zack Snyder va s'y frotter. Il y a eu d'autres réalisateurs, hein, d'ailleurs, qui avaient été pressentis. Et c'est Zack Snyder qui mènera le projet à terme et qui, alors ça c'est la petite anecdote, mais a dit du film la chose suivante. Il a dit, si vous lisez l'épilogue de Gilliam, vous verrez que c'est de la folie. Je l'ai fait pour protéger de tous les Terry Gilliam de ce monde. Terry Gilliam a répondu. Il a répondu, qui sont-ils tous ces Terry Gilliam? Quelles menaces posent-ils? Peut-on les arrêter avant qu'ils détruisent d'autres films inspirés de comics? Ce qui a fait que Zack Snyder s'est pris une volée de bois vert sur les réseaux sociaux, parce que maintenant, c'est le terrain de jeu préféré des haters. Et la fin de Gilliam, elle était effectivement assez étrange. Il partit du principe qu'Ozymandias arrivait à convaincre Dr. Manhattan de retourner dans le passé et de l'empêcher de devenir ce qu'il était, c'est-à-dire un super-héros bleu. Et ça créait un paradoxe qui transformait tous les Watchmen en personnages de comics qu'un enfant lisait à la fin du film sur le bord d'un trottoir. Voilà, bon. Ceci dit, je préfère la fin du film de Snyder, qui est beaucoup plus proche
du bouquin.
Du bouquin, effectivement, et qui pose, je trouve, des questions qui sont beaucoup plus intéressantes sur ce que l'on peut faire pour sauver la majorité des personnes.
Ouais, parce que Snyder, son film, lui, il est très très proche du. Même si je crois que c'est Alan Moore dit qu'il l'a pas aimé ou il l'a pas vu, je sais plus. Mais le film de Snyder est très proche de la BD, quasiment plan pour plan.
Oui, c'est très proche. Il a fait un peu de coupe franche dans les choses qui étaient un petit peu annexes à l'histoire. Mais dans l'ensemble, c'est quand même très fidèle. Et puis, c'est plutôt pas mal. Enfin, il se revoit très, très bien encore. Donc, le cher Terry Gilliam n'en était pas à son coup d'essai avec Lost in La Mancha. Enfin, non, l'homme qui tua Don Quichotte.
Ouais, le film de Gilliam était... Pour l'anecdote, était budgété à 30 millions de dollars, ce qui pour l'époque était quand même pas mal. Et il envisageait dans le rôle du docteur Manhattan Dolph Lundgren, ce qui pareil. Et puis Tommy Lee Jones en comédien. Parce que Tommy Jones en comédien, ça aurait pu vraiment être très sympa. Voilà. Et puis le film s'arrêtait à la fin des années 90, le projet en tout cas. Et au début des années 2000, ça a été relancé avec notamment des réalisateurs qui étaient prévus comme Darren Aronofsky, celui qui a fait Requiem for a Dream, et autrement Paul Greengrass, à qui on doit une partie des Jason Bourne, en fait. C'est un très bon réalisateur. Voilà. Et finalement, ses oncles...
était dans les cartons depuis 1986, hein, du côté studio, donc il aura fallu attendre 15 ans pour que le projet commence à reprendre... prendre de la consistance. Je peux enchaîner?
Ouais.
Avec un autre film, moi, que j'aime beaucoup, qui s'appelle L'Enfer. Enfin, un film que j'aurais beaucoup aimé voir, plutôt. Qui s'appelle L'Enfer, de Henri-Georges Clouzot. Le pitch, c'est l'histoire d'un couple qui prend en gérance un hôtel... en province. L'époux, qui est joué par Serge Reggiani, est consumé de jalousie et finit par séquestrer et attacher au lit son épouse, qui est jouée par Romy Schneider. Et les fantasmes de l'époux se mêlent à la réalité alors qu'il se remémore le passé en torturant sa femme. Donc c'est un truc très très glauque. C'était un film qui devait être tourné dans les années 60, en 64 en fait, et Henri-Georges Clouzot est tombé très malade pendant ce tournage. Pour cause, c'est que pour pouvoir clore tous les plans et couvrir l'ensemble du projet, il a fallu en fait qu'il travaille plus de 16 heures par jour avec de multiples équipes, et ça l'a complètement éreinté. Alors le film a donné lieu à un making-of qui est dispo depuis 2009. Il y a un documentaire qui est dispo sur YouTube en allemand de Serge Brumberg. Et le film a été repris par Claude Chabrol en 1994, sous le même titre, hein, L'Enfer. Petite anecdote, on y trouve sur le film de Clouzot Costa Gavras en assistant réalisateur. Voilà, donc un film moi, que j'aurais aimé voir, parce que c'était quand même très... très osé, très avant-gardiste pour l'époque. Et puis quand on lit le pitch, on pense un petit peu aussi à un autre auteur, c'est Stephen King avec Jesse.
Oui.
Voilà. Donc
Clouzot voilà. qui était un peu ultime dans sa façon de diriger les acteurs aussi quand même.
Ah oui, complètement. Bah, je pense que Romy Schneider devait pas être à la fête sur ce film-là. Il y a une petite anecdote de Costa Gavras qui disait que lors des essais, en fait, la Columbia, qui devait être dans les producteurs, avait donné une carte blanche et budget illimité à Clouzot. Bon. Est-ce que ça fait partie de la légende? À vérifier.
Ouais. Alors moi, j'ai un autre film, si ça te... qui n'a rien à voir du tout.
Ah bah non, ouais. Ça n'a rien à voir, non.
Rien du tout. C'est Rahan qui devait être adapté au cinéma aussi.
Eh oui.
Et donc par Christophe Gantz. Et moi, justement, Rahan et Christophe Gantz, c'était déjà bien sur l'affiche, parce que Christophe Gantz, ça doit être un réalisateur qui, pour moi, n'a pas encore fait de chef-d'œuvre. C'est un réalisateur qui est très sympathique parce qu'il fait du film de genre assumé. Et il y a des films qui vieillissent plus ou moins bien, mais je trouve que le Silent Hill qu'il a fait, j'ai beaucoup aimé. Même le Pacte des Loups, le fait qu'on mélange 18e siècle, Bête du Gévaudan et karaté, moi ça me va très bien. Baston de karaté avec des paysans français, des bâtons au milieu d'une prairie quand il pleut, avec des gens qui mordent pas la poussière mais la boue, je trouve ça plutôt sympa. Et donc comment Christophe Gantz avait normalement prévu de tourner Rahan. Alors Rahan, c'est un personnage qui est apparu pour la première fois dans Pif Gadget il y a 50 ans, en 69, créé par Roger Lecureux et André Chéret.
Oui.
Donc c'est un personnage qui évolue dans une préhistoire un peu pas exacte quand même, puisqu'il fréquente, ça peut lui arriver de croiser des dinosaures. Et Rahan, une personne qui cherche la tanière du soleil. Voilà. Donc, c'est ça sa quête, hein, c'est aller trouver où le soleil dort. Donc, il va tourner longtemps. Et voilà. Et Christophe Gantz voulait en faire un film sauvage et onirique, organique, d'atmosphère, avec une esthétique proche du documentaire. Voilà. Et malheureusement, c'est plus une histoire de calendrier, puisqu'il se fera couper l'herbe sous le pied avec le film 10 000 de Roland Emmerich, qui traitait à peu près du même. Ouais, qui est tellement. Je ne l'ai pas vu. Roland Emmerich, c'est pas. Bon, c'est le film agréable du dimanche soir, mais bon, si ça ne passe pas le dimanche soir, je ne vais pas trop courir après non plus. Voilà, donc le film était budgété avec 17 millions d'euros, et le projet était très bien engagé. Les prises de vue principales étaient même annoncées pour 2004, avec une sortie prévue en 2006. Voilà.
Il y a eu beaucoup de films avortés. Hein. Il avait fait. Il avait projeté une adaptation de Pat Labore, qui était un anime des années 90, de 20 milieux sous les mers, qui devait être une production franco-chinoise, qui a été finalement abandonnée au profit d'un autre film qui s'appelle Corto Maltese, qui finalement ne fera pas le jour non plus. Il avait eu aussi l'envie de faire un remake de Fantomas.
Oui.
Donc, il a fait beaucoup d'annonces de films qui donnaient qui mettaient l'eau à la bouche. On va se contenter pour l'instant d'attendre son prochain film.
Parce que son dernier de mémoire, c'est La Belle et la Bête.
Tout à fait.
Moi, personnellement, je suis pas fan de cette histoire-là, mais je trouve que la version de Gantz est tout à fait correcte. Voilà. En dehors des trois petits animaux qui servent de sidekick, mais qui dédramatisent aussi vachement le film pour pour l'ouvrir à un public plus large. C'est plutôt, il a pas à rougir des adaptations de Disney, en fait, je trouve, ce film.
Non, et puis voilà. Vincent Cassel dans le rôle de la bête, ça collait plutôt pas mal.
Oui, ouais. Donc voilà. Alors, je peux passer à un autre film autrement. Donc là, c'était là pour le coup aussi, c'est un film qui, moi, m'aurait vachement donné envie. C'est un film qui ne s'est pas fait. Il y a quelques photos qui sont pourtant des essais de costumes qui sont sortis sur Internet il y a quelques années, mais c'est pas si vieux que ça. Et c'est un film qui devait être réalisé par Tim Burton. C'était Superman Live.
Eh oui.
Avec Nicolas Cage dans le rôle de Superman. Voilà. Et Tim Burton justement s'est joint au projet parce que c'était Nicolas Cage, alors qu'il n'a pas beaucoup apprécié de faire des films de super-héros avec les Batman, même si le deuxième est plus proche de son univers que le premier, mais ça reste quand même de très bons Batman, même s'il n'avait pas trop envie de le faire. Voilà.
De faire un Catwoman avec Michelle Pfeiffer, qui était prête à le rejoindre sur le projet et qui a été abandonné au profit du Catwoman avec Alberi, en fait.
Qui est clairement un très très mauvais film, voilà, celui d'Alberi. Voilà. Donc, rien que le costume déjà. Enfin bref, ça le fait pas.
Non, ça colle pas.
On sent dès le départ que c'est un costume qui est fait pour les mecs, mais sauf que Catwoman, non. Enfin, ça. Voilà. Bref. Donc Nicolas Cage était beaucoup préparé, hein. Il avait fait de la muscu et tout pour pouvoir rentrer dans un costume entièrement revu, qui avait plutôt de la tronche d'ailleurs. Et le film devait commencer à la mort de Superman classique, et enchaîner sur sa résurrection par un robot venu de Krypton. Voilà. C'était ça l'histoire de base. Le scénario a été sans cesse remanié, et finalement le film ne s'est pas fait. 30 millions de dollars ont quand même été dépensés pour la préparation de ce film, ce qui n'est pas une paille. Voilà. Et
c'est de mémoire que Kevin Smith avait écrit une version du scénario, d'ailleurs, de Superman Lives.
Je ne sais plus.
Elle avait été retoquée parce que beaucoup trop dark.
C'est possible. Le premier réalisateur qui était prévu, en tout cas, de ce que j'ai trouvé, c'était Robert Rodriguez. Et au niveau du casting, il y avait Courteney Cox qui devait jouer Lois Lane, Kevin Spacey dans Lex Luthor, ce qui fera plus tard dans la très sous-estimée version de Bryan Singer,
qui est très bien,
que moi j'aime beaucoup et que je préfère même à celle de Snyder. Chris Rock devait jouer Jimmy Olsen et Jim Carrey en Brainiac. Voilà.
D'accord. Ah oui.
Et voilà, pour Kevin Smith, je sais pas, mais je pense que tu as raison, il est souvent dans des scénarios de ce genre.
Lui, voilà. Il en a écrit quelques-uns qui se sont fait retoquer. Hein.
Oui.
Effectivement, il avait bien écrit un scénario pour Superman Lives, je viens de vérifier, et il semblerait qu'il y ait un documentaire qui s'appelle « The Death of Superman Lives, What's Happened ?» Voilà, un documentaire de 1h45. Voilà, il raconte les événements en coulisses qui entourent le film annulé de Tim Burton.
C'est ça.
Une petite pause musicale, qu'est-ce que tu en penses, cher ami Masque ?
Ah bah, ça me va très bien, d'autant que je crois que la musique sera de qualité ce soir.
Oui, tout à fait. Je propose un petit morceau de Aurora qui s'appelle The Seed.
Just like the sea, I don't know where to go. Through dirt and shadow I grow. I'm reaching light through the struggle. Just like the seed, I'm chasing the wonder. I unravel myself. All in slow motion. You cannot eat money or not, and the last tree has fallen, and the rivers are. suffocate me, so my tears can be rain. I will water the ground where I stand, so the flowers can grow back again. 'Cause just like the seed, everything wants to land. We are burning our fingers, but we learn and forget.
Eh bien, bonjour sur le masque et la tronçonneuse, après cette petite césure musicale.
C'est sympathique. Sympathique. Comment tu disais, c'était Aurora The Seed, c'est ça?
The Seed, le titre. Aurora, c'est une artiste que j'aime beaucoup. On a pu l'entendre dans La Reine des Neiges de Disney, puisqu'elle se... enfin, c'est elle qui chante en version originale, le titre phare.
Libéré, délivré.
Oui,
c'est ça.
Mais c'est une artiste que j'aime beaucoup. Je vous invite à regarder sur une chaîne de radio d'ailleurs, sur YouTube, qui s'appelle KUXP. Il y a quelques sessions live et c'est très chouette. Je te propose de parler de deux réalisateurs que j'aime beaucoup, si tu me permets.
Bah, dis-les déjà les noms. Annonce.
Eh bien, le premier, c'est Christian Clavier. Non, je déconne. C'est Stanley Kubrick. Et le second, c'est Sergio Leone. Stanley Kubrick, il avait un projet qui lui tenait à cœur et qu'il a tenu pendant des dizaines d'années, en fait. Hein. Un projet qui s'appelle The Aryan Papers. Aryan au sens aryen. Hein. C'est un film qui parle de la Shoah. En 1976, il s'est lancé sur ce projet-là. Il a réuni énormément de documents, de témoignages et énormément de... Il a fait un gros travail de recherche à partir de 1976, hein, pas juste en 1976. Et il a cherché une accroche scénaristique pour parler de ce thème-là. Et en 1991, il part sur la base d'un livre qui l'avait beaucoup touché, qui s'appelle « Une éducation polonaise ». qui mettait en scène en fait un enfant juif et sa tante. Et il a commencé à écrire un scénario. Et le film, c'est, en fait, le projet s'est arrêté parce qu'en 93, pendant la préparation de ce film, sort un autre film qui s'appelle La liste de Schindler de Steven Spielberg, avec la moisson d'Oscar qu'on lui connaît. Hein. Et la Warner Bros. qui était sur le projet avec Kubrick s'est retirée, pensant que le public en fait voudrait un nouveau film sur ce thème-là, ce qui s'était déjà produit pour Stanley Kubrick lorsqu'il sort Full Metal Jacket en 87, puisque un an avant, Oliver Stone sortait Platoon.
Oui, puis il y a eu beaucoup de bons films, enfin de très bons films sur le Vietnam dans les années 85, 86, 87, 88. Quoi. Voilà. Et là, c'est ouais,
c'est dommage parce que Kubrick, enfin c'est un réalisateur moi que j'adore pour plein de raisons, qui a souvent été décrié pour certaines de ses adaptations, mais moi je trouve quand même être un cinéaste majeur hein, depuis ses premiers films jusqu'à la fin. Voilà, qui a sa touche personnelle, qui est critiquable sur certaines choses, mais qui reste un grand créatif, en fait.
Oui.
Même d'ailleurs, si j'ai testé les acteurs. Son rêve, ça aurait été de tourner un film sans acteurs. Mais en tout cas, voilà, c'est un film que j'aurais aimé voir, en fait, cette adaptation d'Une éducation polonaise.
Bah, Kubrick a plusieurs projets qui ont été avortés. Il y a le Napoléon, qui était aussi colossal. Qu'il avait prévu de tourner après 2001, l'Odyssée de l'espace, et qu'il a abandonné en 71. Il existe pas mal de documents sur il avait regroupé pas mal de documents pour préparer son film, et tout ça on peut le trouver sur Internet. Et il y a un autre projet qui, lui, n'a pas abouti parce qu'il avait une bonne raison, il est quand même mort, donc il n'a pas pu le faire, et c'est Spielberg qui l'a repris. Voilà. Oui. Et oui, il y a bien des papes qui font des miracles après leur mort. Pourquoi Kubrick n'aurait pas pu faire un film avec un peu de bonne volonté. Et c'est AI, intelligence artificielle,
oui,
qui a été réalisé par Spielberg. Et qui, pareil, moi je trouve que c'est un film qui. C'est pas un film que j'avais très aimé, comme Ace White Shot d'ailleurs, à leur sortie. Et c'est des films qui moi, enfin, plus je les revois, plus j'ai de plaisir à les revoir, en fait, parce qu'ils sont beaucoup, beaucoup plus, enfin, je découvre à chaque fois que je les vois, je découvre de nouvelles choses, quoi. Voilà.
Kubrick avait une particularité dans ses films, il y a de très bons docu sur Kubrick, et beaucoup font état d'un univers Kubrick, c'est-à-dire une interconnexion entre tous ces films. En fait, chaque film annonce le suivant quasiment. Que ce soit par des thèmes musicaux, que ce soit par des présences d'acteurs, que ce soit par des manières de filmer, il y a toujours quelque chose qui va déclencher, alors c'est pas forcément un fil rouge qui est réfléchi à l'avance, mais qui va amorcer le film suivant. En fait, il va découvrir quelque chose, il va mettre en œuvre quelque chose qui va amorcer l'idée suivante. Je parlais d'Une éducation polonaise. Je vais quand même citer l'auteur, puisque c'est quand même adapté d'un livre. L'auteur du livre, c'est Louis Begley. J'espère que je prononce bien. Begley, pour ceux qui seraient curieux d'aller y voir. Et l'autre auteur, moi, l'autre réalisateur aussi, dont j'avais envie de parler par rapport à ses films avortés, c'est Sergio Leone. Qui avait aussi eu l'envie d'adopter un livre qui s'appelle Les 900 jours, sous la forme d'un film qui serait appelé Leningrad, en fait, l'histoire d'un photographe qui aurait été joué par Robert De Niro, un photographe de guerre piégé dans la Russie pendant le siège de Leningrad. Et ce photographe va tomber amoureux d'une Russe, et ensemble, ils vont à la fois devoir lutter pour survivre et échapper au bombardement de la Luftwaffe, et à la police secrète, puisque les relations entre Russes et étrangers étaient également interdites. Le film n'a pas pu se faire pour une bonne raison aussi, hein, c'est la même que Kubrick, hein, quand je dis qu'on a les raisons qu'on veut, quand elles marchent, on les donne. Il est décédé avant le tournage, donc il n'a pas pu se faire. Par contre, les droits ont été cédés à Jean-Jacques Hano, qui a fait un film qui s'appelle Stalingrad, et qui était un véritable hommage au western de Sergio Leone, qui est, alors comme tu dis, hein, c'est un film moi qui m'a qui enfin que je peux revoir plusieurs fois, je redécouvre à chaque fois des nouvelles choses en fait.
Tu parles de Stalingrad de Jean-Jacques Hano?
Absolument.
Oui. Oui.
Il est la première fois que je l'ai vu, il m'avait laissé un goût un peu mitigé quoi, et en le revoyant plusieurs fois, j'ai vraiment aimé ce film et je l'aime toujours autant. Je le trouve très très bien fait, il y a une maîtrise une maîtrise de la dramaturgie en fait dans ce film-là, c'est un duel, enfin, c'est un duel, oui, au milieu de la bataille quoi. Et ça c'est extraordinaire ce rendu-là.
Le gros défaut que je trouve à ce film, que j'aime beaucoup, c'est Joseph Fiennes, qui je trouve n'est pas forcément un très bon acteur. Son personnage n'est pas très intéressant. C'est l'officier politique, celui qui crée la légende du sniper soviétique. Mais par contre, après le casting, il est top. Et puis le film est crade, on a froid quand on le regarde. Enfin, c'est vraiment une boucherie quoi. Sans qu'il y ait le côté spectaculaire des films de guerre qui sortaient à l'époque, même si le film est très spectaculaire, mais c'est pas non plus la chute du Faucon Noir, je veux dire. Ça reste beaucoup plus sobre, mais ça fonctionne très très bien quoi. C'est vraiment bien.
Voilà. Mais c'est un, ouais, enfin c'est ce côté-là que j'aime beaucoup dans le film. Alors Jude Law, je trouve très très bon, mais c'est Stalingrad, c'est deux snipers en fait, hein, qui vont chercher. Ça devient un duel de snipers et tout passe dans les regards. Et c'est là en ça où je trouve que l'hommage à Sergio Leone est très appuyé, quoi. Ça passe par le regard, le sniper, oui, ce qu'il y a dans le viseur, etc. Et on en oublie en fait qu'on est sur un champ de bataille qui fait intervenir deux armées, puisque les deux armées sont finalement résumées à ces deux hommes-là. C'est limite si la victoire de ce siège en fait ne tient pas qu'à la victoire d'un seul homme.
C'est ça.
Et voilà, c'est un film pour lequel j'ai beaucoup d'affection et je revois avec plaisir quand je peux. Alors le film avait été en Leningrad, hein, de Sergio Leone. Hein, c'est un film, c'est pareil, qui naît dans la tête de Sergio Leone en 1971. Donc il n'arrive à rassembler le budget qu'en 1989. Donc, l'année de sa mort, à savoir 100 millions de dollars. C'est pas un peu dérisoire maintenant pour un film, mais à l'époque, c'était énorme. Quelques films qui sont plantés avec des budgets moindres. Enfin, quelques films, oui, studios, d'ailleurs.
Oui. Moi, je peux parler aussi d'un projet avorté aussi pour un autre grand réalisateur, c'est Alfred Hitchcock.
Ah oui.
Alfred Hitchcock qui n'a pas tourné The Blind Man.
C'était... Ah non, je pensais à Frenzy.
Ah ben, tu pourras en parler après, juste après, alors, parce que c'était entre après Psychose et à la place des oiseaux, Hitchcock devait tourner donc The Blind Man. Et puis avec James Stewart qui jouait le rôle d'un pianiste borgne et qui retrouvait pleinement la vue grâce à une opération de chirurgie révolutionnaire, on lui greffe un œil en fait. Mais quelques temps plus tard, alors qu'il assiste à un spectacle à Disneyland, un spectacle de western, son œil greffé ne voit pas la scène, mais voit un homme qui est en train de le tuer. Donc il voit en fait ce que le donneur a vu avant de mourir en fait. Voilà. C'est le crime est resté imprimé sur l'œil du donneur. Mais Disney a refusé que le film se tourne à Disneyland. Mm-hmm. Et alors qu'ils sont gonflés chez Disney, parce que quand même la maison hantée chez Disney, elle ressemble vachement à la maison de Psychose, même si elle est aussi inspirée d'un tableau de Hopper. Voilà. Donc je pense que bon, bref. Mais Walt Disney détestait Psychose et Hitchcock a fini par abandonner The Blind Man, ce qui aurait pu être très, très sympa. Voilà.
Et je pensais quand même parler du film qui a donné Frenzy, mais qui serait appelé Kaleidoscope. Et tu vois, on n'est pas loin, hein, parce que Hitchcock avait aussi ce projet-là qui était inspiré de l'histoire de Neville Hess, qui était un serial killer anglais, violeur de jeunes filles. Sympathique. Et il avait voulu en faire un thriller expérimental, violent, sexuel. Le tueur en question était très excité à la vision de l'eau. Et il voulait tourner avec des acteurs méconnus, ouais, avec un petit budget dans des décors naturels. Donc, en fait, bah, ça ne s'est pas fait. Et le projet s'était intitulé pendant un temps Frenzy. Alors, à ne pas confondre avec le film Frenzy de 72 que Kubrick a effectivement tourné, où il a gardé quelques éléments, mais ce n'était pas le sujet originel. Et le film, donc, ce n'est pas fait parce que Universal, en fait, a refusé de financer le film qu'ils ont jugé beaucoup trop violent et débridé.
Bah, et moi, pour rebondir sur le film précédent, The Blind Man, qui ne s'est pas fait non plus avec Hitchcock, hein, il y a un court-métrage qui existe et qui s'inspire un peu de cette histoire, c'est Petit cauchemar avant la nuit, autrement dit Body Bag, un film à sketch réalisé entre autres John Carpenter, Toby Hooper, tout ça. Et donc dans cette série, il y a trois films de mémoire. Et il y a un des courts-métrages qui s'appelle Œil pour œil, avec Mark Hamill qui joue le héros et qui se retrouve à se faire greffer l'œil de mémoire d'un tueur en série. Et ouais. Il va voir ce que le tueur en série voyait, et il va finir par suicider en se plantant un taille-bordure ou une grosse paire de ciseaux dans l'œil. Voilà. Mais c'est un peu ça aussi. Voilà. Bon, Body Bag, c'est pas un super, super truc, mais c'est bien pour des ados, à l'époque, des deux ados maintenant. Voilà.
Nous, quoi.
Nous, voilà, nous, c'est exactement ça.
En changeant un peu de genre, il y a un film aussi qu'on ne verra jamais, et c'est bien dommage, c'est le Spider-Man 4 de Sam Raimi. Il y avait un Spider-Man 4 de prévu, hein, qui devait mettre en scène en fait Venom et l'homme sable. Et le film en fait devait se tourner en 2010, je crois, avec une sortie prévue en 2011, avec John Malkovich dans le rôle du Vautour, puisqu'il y aurait eu le Vautour aussi dans le film. Et le studio, en fait, va refuser à Sam Raimi les choix qu'il fait, les choix artistiques. Il voulait éventuellement aussi, il voulait aussi inviter dans son film Morbius, qui est un personnage assez violent, vampire, qui d'ailleurs va donner lieu à un film, je crois.
Bah, qui sort bientôt, mais honnêtement, bref.
Ouais, qui a l'air du même acabit que Carnage.
J'ai pas vu Carnage parce que j'ai vu le premier et que ça m'a pas donné du tout envie d'aller voir Carnage. Mais je pense que quand tu vois la bande-annonce de Morbius, je pense que là on tient sans doute le plus mauvais film de 2021 s'il sort en 2021 et sans doute le plus mauvais film de 2022 s'il sort en 2022. J'en mettrai ma main à couper que c'est de merde.
J'irai le voir. Juste pour m'assurer. Et donc le studio, voilà, va pas approuver les choix artistiques, va lui refuser l'enveloppe qui est budgétisée quand même à 250 millions de dollars. Et le projet va s'enliser au point que le projet est abandonné officiellement début 2010, quoi. Et Sam Raimi est très amer de ne pas pouvoir amener son projet jusqu'au bout. On comprendra. Moi, je regrette ce triste destin, parce que j'avais bien aimé les Spider-Man de Sam Raimi, vraiment.
Moi, le 3 quand même. Le 3 m'avait un peu déçu. Voilà. Après, le fait qu'ils aient refusé ce film, ça va engendrer les deux films The Amazing Spider-Man. Mais pour des raisons toutes bêtes, c'est que Sony veut conserver les droits, donc ils mettent le premier projet de The Amazing Spider-Man en route rapidement parce qu'ils ont un temps donné pour réaliser des films, sinon ils perdent les droits. Ce qui a donné deux films qui sont pas pas sans qualité, mais qui sont nettement en dessous de ce que Sam Raimi avait fait.
Oui, et puis Andrew Garfield n'a pas une très très bonne, un très très bon souvenir de ces expériences-là. Enfin, lui, ça n'a pas été une bonne expérience pour lui.
Non, et pourtant il est bien dedans.
Oui, voilà, c'est bon, mais il n'est pas forcément très très bien, très très bien, très très bien entouré. Bon.
C'est comme ça.
Tu parlais de Darren Aronofsky. Il a été pressenti aussi pour lancer un film qui s'appelait Batman Year One, d'après Frank Miller, qui ne verra pas le jour.
Même si, je ne sais pas si le... Non, j'allais dire des conneries.
C'est Warner qui va faire en sorte que le projet ne se fasse pas, parce que c'est du Frank Miller, déjà à la base. L'univers de Batman est déjà assez sombre, et là, en fait, il imaginait une première scène, en fait, où Gordon, en fait, est sur le point de se suicider avec un pistolet dans la bouche. Enfin, c'est d'une noirceur absolue. Warner n'a pas du tout suivi. On voit bien comment Warner, d'ailleurs, est très, peut être très, très frileux quand il s'agit de tourner des choses un peu sombres. Hein. Ils sont bien plantés avec Suicide Squad, le premier, en tout cas.
Oui.
Voilà.
Et Joker leur a sauvé la vie, leur a sauvé la mise parce qu'il a... Il a relancé un petit peu les films DC, alors que c'est un film très sombre aussi. Mmh, voilà. Mmh. Et il y avait un truc qui était vraiment bien pour le Batman Year One, c'est que, peut-être que tu l'as, le nom de l'acteur qui était pressenti pour jouer Batman dans cette version, c'était Clint Eastwood, parce que c'était un Batman vieillissant et franchement, ça aurait eu de la gueule.
Voilà. Ça aurait eu de la gueule, oui, tout à fait. Ouais.
Donc c'est un projet qui a été... qui a été mené pendant l'été 99. Et comme tu disais, Warner a fermé le truc parce que c'était trop radical et qu'il voulait un vrai Batman, sachant qu'on sortait du Batman et Robin de Schumacher, qui lui devait dater de 97, je crois. Donc c'était 2 ans plus tard.
Ouais, c'était, voilà. Ouais. Alors là, c'est quand Batman devient un personnage de série bonbon acidulé. Enfin, c'était horrible, ce film.
Oui, exactement.
J'ai découvert que Josh Whedon, tiens, on parle de super-héros, avait été pressenti pour... Enfin, avait un projet de faire un Wonder Woman aussi. Mais il a demandé beaucoup, beaucoup de liberté et ça a été retoqué. De même que George Miller avait lancé un projet pour Justice League.
Ça aurait pu être pas mal.
Ça aurait pu être pas mal.
Ça peut être pas mal.
Ouais. Ne pas voir le Justice League de Zack Snyder, hein, ceci dit. Hein, ce qui aurait été bien dommage parce que Josh Whedon, pour le coup, la boucle est bouclée, mais on avait fait vraiment un film de merde où il avait sabordé quasiment toutes les scènes et tous les aspects intéressants de l'histoire pour se centrer que sur l'action. Oui. Alors que le film de Snyder prend le temps de poser certains personnages, voire même m'a rendu moi sympathique certains personnages que je trouvais à la base très très insignifiants, comme Cyborg. Donc le film de Snyder dure 4 heures. Il a pu être, d'ailleurs, on peut remercier la fanbase, hein, puisque c'est la fanbase qui a fait pression pour avoir le film, qu'il a fait à perte, parce qu'il n'a pas été financé. Donc c'est bien.
Ouais. Moi j'ai vu le début de Justice League. J'avais le temps de regarder la fin, mais je me suis dit que que la vie était courte et j'avais autre chose à faire.
Et ben le Snyder, vrai... il est très très bien.
Ouais, dès que je pourrai, je le verrai. Ouais. Et Snyder qui avait réalisé le Batman contre Superman, mais qui était un projet qui avait déjà été prévu, et avec Wolfgang Petersen derrière la caméra. Et voilà. Avec Christian Bale et George Arnett pour Superman. Les deux étaient sur les rangs, hein, voilà. Et puis James Franco ou Colin Farrell pour Batman. Et avec un scénario repris par Akiva Goldsman, qui a écrit Je suis une légende. Voilà. Et le film était prévu pour sortir en 2006. Mais finalement, ce sera le film suivant, ce sera celui de Christopher Nolan, Batman Begins. Voilà. Et dans les super-héros aussi qui ont été avortés, il y avait She-Hulk. Je crois qu'une série est en préparation.
Elle est en préparation toujours. Je crois même qu'elle est en tournage d'ailleurs. Elle est prévue pour la plateforme Disney, exact.
Voilà. C'est un personnage qui est un peu plus compliqué à adapter, je pense, parce qu'il y a déjà Hulk tout simplement. Et là, pour le. Hein, pardon ?
La gueule du bébé.
Oui. Et là, par contre, ça sentait pas bon sur le papier, puisque c'était Brigitte Nielsen qui devait interpréter.
Aïe, aïe, aïe.
Quel est le lien avec Bruce Banner? C'est sa copine, hein, c'est ça?
Bon, je ne suis pas assez calé en...
Je crois que c'est Betty Ross qui devient She-Hulk, hein, je crois. Hein.
Peut-être.
Donc, le personnage joué par Jennifer Connelly dans le film de Ang Lee.
Voilà. D'accord. Là, je n'ai pas les infos. Je te propose une deuxième petite pause musicale avec quelque chose de très doux qui s'appelle Cargo de Tagada Jones. Très sympathique, c'est parfait pour s'endormir.
D'accord.
Chanson plein d'espoir.
un gigantesque cargo poubelle perdu dans une mer déchaînée. Sous l'effet de la houle commence à céder. Mayday, mayday, à deux doigts de couler. Déjà trop tard, c'est avant qu'il faut s'inquiéter. L'or noir commence à couler à flot. C'est peut-être pas nouveau mais encore une fois de trop. Et qui fera l'effort de se baisser encore pour ramasser par belle vos putains de poubelles. On ira tout danser quand même, car cette terre en vaut bien la peine. Malgré le vent, malgré la tempête, nous balayerons la merde de notre planète. On le fera sûrement pas pour vous, ni pour une médaille, ni pour un sou. Croyez-le ou pas, malgré vos avocats, un beau jour on vous le rendra. L'idée du pollueur payeur est topique qui nous plaît bien. Mais nous ne sommes pas assez fous pour croire.
Et tu nous parlais de Schwarzenegger. Ça vu, c'est agréable à l'oreille. Hein.
Avant, oui, ça va. Ça va. J'ai bien apprécié, ça m'a détendu. Et donc, je vais parler de Schwarzenegger, était la méga star des années 90.
C'est clair.
Et qui a eu plusieurs projets. Sa carrière a commencé un peu à piquer du nez à la fin des années 2000, enfin au début des années 2000, mais il a eu quand même quelques projets qui étaient très intéressants, notamment King of King Conan, où il devait en 2003 retrouver John Milius pour une suite de Conan le Barbare, qui se déroulait 20 ans après le premier. Et les frères Wachowski, à l'époque les frères Wachowski, maintenant les sœurs Wachowski, étaient créditées en tant que productrices. Et donc, c'était un atout supplémentaire. Il est également question de Dwayne The Rock, Dwayne Johnson, pour incarner Conn, le fils du Cimérien. Le film était construit autour d'un Conan âgé, le Conan qu'on voit à la fin du premier, qui est sur son trône. Oui. Voilà. Oui. Et donc, comme les studios n'ont pas suivi, et que Schwarzenegger a été élu gouverneur de Californie en 2003, le projet est tombé à l'eau. Il y a eu depuis un nouveau Conan le Barbare qui est tout à fait dispensable, réalisé par Marcus Nipsel, voilà, avec, j'ai oublié son nom, l'acteur qui joue Aquaman.
Ah, Jason Momoa.
Voilà qui était taillé pour le rôle, mais voilà, c'était peut-être le seul truc du film qui était, plutôt bien.
Aquaman.
Voilà. Dans les autres projets que Schwarzenegger à laisser tomber, c'était Doc Savage, un joueur d'Indiana Jones.
Oui, tout à fait, oui.
Qui est revenu devant, derrière, enfin, qui est revenu sur le devant de la scène plusieurs fois, avec des gros effets d'annonce, comme Frank Darabont au scénario et James Cameron à la caméra, ce qui sentait plutôt bon. Mais tout ça n'est resté que des effets d'annonce. Et puis encore un autre projet que Schwarzenegger dans lequel Schwarzenegger n'est pas allé, puisque le projet ne s'est pas fait. C'est Je suis une légende, parce que au début il y a eu Tom Cruise, puis Kurt Russell, et finalement c'est Will Smith qui a hérité du rôle dans un film qui est, moi personnellement, un de mes plus mauvais souvenirs au cinéma. Je me suis vraiment vraiment ennuyé à la vision de ce film. Il y a pas grand chose à sauver. Par contre, le projet de Schwarzenegger sentait bon, puisque il prévoyait que ce soit Ridley Scott qui réalise. Voilà. Ça, c'était
des conneries comme Covenant.
Qui a fait des conneries comme Covenant, et c'était en 97, et c'était pas au moment où Ridley Scott était au meilleur de sa forme non plus. Voilà. Il s'était fait un claquage avec G.I. Jane plus d'autres films qui n'étaient pas. Voilà. Mais il avait bien récupéré avec Gladiator, qui est arrivé 3 ans plus tard. Voilà.
La suite est en tournage ou s'apprête à entrer en tournage, le Gladiator?
Oui, j'ai hâte de voir, parce que je vois pas trop l'intérêt, en fait, d'un film comme ça. Et, pourquoi pas?
Je reste curieux.
J'ai beaucoup aimé, le dernier duel que Ridley Scott a sorti récemment.
Il est pas resté longtemps, parce que je voulais aller le voir. Il est resté qu'une semaine par chez moi et c'était bien dommage.
Voilà, j'ai vraiment bien aimé.
En le laissant qu'une semaine à l'écran, il peut que se planter, c'est sûr. Ça, c'est ma petite pique. Et je pensais que tu me parlerais d'un film de Verhoeven avec Schwarzenegger.
Attends, j'ai pas fini, parce que Schwarzenegger, il était aussi sur le projet d'un remake de La Planète des Singes.
Exact, c'est vrai,
tu as raison. Voilà. Et comment, avec des personnes derrière la caméra qui étaient plutôt pas mal, hein, parce qu'il y avait quand même James Cameron qui était cité, Oliver Stone, en passant par Chris Columbus, Philip Noyce et les frères Hughes. C'était un remake, hein, intitulé Retour sur la planète des singes. Voilà. Et puis ça s'est pas fait. Voilà. Et c'est là qu'on parle du film que moi, personnellement, bah après, il y en a d'autres, hein, notamment le Napoléon de Kubrick et surtout le Leningrad de Sergio Leone. Mais il y a un projet, moi, que j'aurais beaucoup, beaucoup aimé voir sur grand écran, même sur petit écran, même sur téléphone portable. C'est Crusade, un film qui a été avorté et qui devait rassembler une nouvelle fois Schwarzenegger dans le rôle principal et Paul Verhoeven derrière la caméra. Paul Verhoeven qui avait déjà fait La chair et le sang, qui est un des meilleurs films, enfin un excellent film se déroulant à l'époque médiévale. Et puis Schwarzenegger, qui était la bête de films d'action de la fin des années 80, enfin des années 90-2000. Et donc le film devait être produit par Mario Casar, qui était le producteur également de Total Recall, que Schwarzenegger venait de réaliser. C'est d'ailleurs Schwarzenegger, de mémoire, qui avait imposé Verhoeven pour ce film. Un des derniers films gros budget avec des effets spéciaux, surtout mécaniques. Ça se voit, ça a vieilli, mais c'est vraiment sympathique. Ouais, sympa. Voilà. Et comment le scénario devait être écrit, était écrit par Wallon Green, qui a quand même écrit La Horde Sauvage. Le film évoquait a priori, le projet évoquait un mélange entre Conan le Barbare et Braveheart. Il n'y a que du bon. En plus violent, voilà, c'est super. J'en salive d'avance. Voilà. Et puis, le début du film de Crusade, Hagen, qui est joué par Schwarzenegger, jouait le rôle d'un combattant renégat et il devait se faire exécuter. Et son destin bascule lorsque, lors d'une visite du pape Urbain II, il se fait remarquer en mettant le feu à l'image de la croix placée dans son dos. Il est alors libéré, il est envoyé aux croisades, sa destination Jérusalem, que la Sainte Église veut capturer. Voilà. Le casting, lui, commence à prendre forme. Il y a Schwarzy, on parle aussi de Robert Englund dans le rôle d'un prêtre chrétien qui formerait un duo avec un musulman interprété par John Turturro. On annonce aussi Jennifer Connelly en princesse arabe. Enfin bref, vraiment extraordinaire. Mais il manque encore les murs, en l'occurrence l'argent. Donc Casar et sa société Caroloco, qui a aussi produit Terminator 2, n'ont pas l'épaule assez large pour le projet à eux seuls. Le film doit être tourné en Espagne, au Maroc et en Angleterre, ce qui se fait beaucoup pour les films, même actuellement, c'est à peu près les pour ce genre de film, c'est à peu près les pays où c'est tourné. La première estimation du budget est de 90 millions de dollars et s'envole à 120 millions de dollars, ce qui en fait le film le plus cher de l'histoire du cinéma. C'est pour ça que Kazar prend peur et hésite entre deux films, L'île aux pirates et Crusade. Il va choisir L'île aux pirates, ça va être un four. Ce n'est pas un mauvais film, mais ça va être un gros four pour Caro Loco qui mettra la clé sous la porte. Et ce film-là, franchement, ça aurait été quelque chose, je pense.
Bien sûr. Bah, de toute façon, Verhoeven aux commandes, ça aurait forcément donné du bon. C'est évident. Verhoeven ne fait que des bons films. C'est un peu...
C'est un peu ça. C'est un peu ça. Même quand il fait des films qui sont en dessous, comme Holoman, ça reste des films très sympathiques.
Voilà. Oui, ça reste du très bon film. Alors, je vais te passer, moi, très vite sur Le Seigneur des Anneaux de John Boorman, parce que John Boorman avait prévu de faire le film avec les Beatles. Alors, le film, ce n'est pas fait. Il y a plusieurs raisons. D'abord, le coût est trop élevé. Un scénario de 700 pages, 2h30 de film, dans lequel John Lennon aurait joué Gollum. On se marre déjà. McCartney, celui de Frozen Sake. Moi, en lisant le casting, je me suis bidonné. George Harrison aurait joué Gandalf et Ringo Starr, Sam Gamgee. C'est complètement, complètement foutraque. Et en plus, John Boorman prend beaucoup trop de liberté puisqu'il voulait en faire un film avec des grosses divergences sur le scénario initial, un peu sexuel, ésotérique, où Frodon se tapait Eowyn. Enfin bon, c'est un bordel sans nom. Et puis, de toute façon, ils ne pouvaient pas le faire parce que les droits étaient déjà cédés à une unité d'artistes en 1957. Donc, il y avait un os. Donc, il s'est rabattu sur Zardoz. Il a pu mettre tous ces éléments-là un peu ésotériques et sexuels dans son film. Et il a pu embaucher Sean Connery.
Voilà. Oui.
C'est d'ailleurs le rôle de Gandalf à la demande de Peter Jackson. Ça, c'est le petit clin d'œil.
Oui, et qu'il a refusé, ouais.
Ouais.
Il a refusé, ouais.
Et par contre, on va peut-être terminer l'émission, si tu me permets, sur une petite note positive, puisqu'il y a un film qu'on ne... qui aurait pu être dans la série des films qu'on ne verra jamais, qui est Les Montagnes Hallucinées de Guillermo del Toro. Guillermo, oui. Si tu es content, cœur avec toi. Le scénario est prêt depuis 2006. Tom Cruise devait y participer, et puis finalement, il est un peu vieux maintenant, donc ils le prendront pas. Warner Bros. À l'époque était très frileuse parce que le budget était de 150 millions de dollars avec un R-rated, c'est-à-dire interdit aux moins de 17 ans non accompagné, parce que c'était un film science-fiction horrifique. Guillermo del Toro a remanié son scénario et le film est prévu en tournage pour 2022. Alors, il a gardé les éléments horrifiques, mais je pense que l'époque aidant aussi, et puis ce qu'il a expliqué, c'est que c'est un peu assagi aussi sur certains éléments, fait que le film qu'on ne verra jamais, on le verra peut-être finalement. Et ça, c'est une bonne nouvelle.
Oui, et j'en ai un autre aussi qui sort de la catégorie film qu'on verra jamais pour passer dans la catégorie film qu'on verra peut-être un jour. C'est Mégalopolis de Francis Ford Coppola.
Francis Ford Coppola, tout à fait. Ah oui, ce film n'aurait pas dû se faire. C'est vrai.
Et il investit toute sa fortune, soit 100 millions de dollars, pour pouvoir faire le film. Donc,
oui, à l'époque, il n'avait pas pu le faire parce qu'il sortait, de l'épreuve de, il me semble, de Apocalypse Now, qui avait été très, très éprouvante pour lui. Et il ne s'est pas senti le dos assez large pour se battre pour ce film-là. Et puis, il y avait un problème de budget, encore une fois.
Ouais. Mais bon, c'est très bien.
Et deux belles choses bien positives pour finir cette belle émission.
C'est ça.
Alors, on devait parler des séquelles qui n'auraient jamais dû voir le jour. On peut peut-être se garder ça sous le coude pour la prochaine.
Oui. Oui, je pense qu'il y a de quoi faire.
Il y a de la matière, ça va être complètement objectif en plus, c'est sûr.
Oui.
Et puis, je te propose, si tu es d'accord, de nous quitter sur une petite chanson qu'on va dédier à notre ami Joël, qui est absent, qui s'appelle « À 50 ans », un morceau de La Ruelle en chantier.
Oui, et on va en profiter, comme Joël est absent, pour remercier chaleureusement Anthony.
Eh bien oui, parce que voilà. C'était Anthony à la technique. Il a très bien fait ça. Hein. Il nous a mis les timelines et tout. C'est super aux petits oignons. On l'a vu danser aussi. Parce que Joël ne nous a jamais gratifié. Hein. C'est faut le dire. Hein. Joël n'a jamais dansé pour nous.
Non. Mais en même temps, il faut en profiter parce que bientôt, c'est interdit en France de danser. Donc,
dans les bars, mais pas dans les, pas dans les clubs échangistes.
Pas dans les clubs échangistes. Sachant que dans les clubs échangistes, il n'y a que Rocco qui arrive à garder les distances de sécurité. Désolé, eh ben, désolé.
Voilà. Non, c'est très bien, on la garde. Merci Anthony. Joël, j'espère que tu as reçu le défi ou que tu danses pour nous maintenant. Et puis, ben, au mois prochain, monsieur Mas.
Au mois prochain. Allez, à plus, salut.
Ciao.
À 50 ans, je voudrais être un écrivain qui te paraîtrait 20 ans en te parlant de demain. Qui a au fond des yeux cette candeur adolescente, l'espoir un peu prétentieux de vivre encore 50 ans. Et qui se laisse et qui se blesse, accro à trop peu de baisers, dans une parade qui délaisse les derniers arrivés, quittant son ancienne vie comme s'il ignorait que demain il faudrait partir pour ne plus jamais recommencer. À 50 ans j'aurai 20 ans et des poussières, de crédit, 3 passe-temps, 10 raisons de tout foutre en l'air. À 50 ans j'aurai 20 ans et des poussières, 3 amants, un amant, une résidence secondaire. À 50 ans, j'aimerais avoir le grand chelem, des enfants, une maison, un chien, une femme qui m'aime, une voiture, 3 crédits, 5 copains et une maîtresse, bien plus jeune que moi, faisons oublier ma vieillesse. À 50 ans, je voudrais qu'il y ait mes parents, encore heureux et amoureux, comme quand j'avais 20 ans, franchir les ports du cimetière, uniquement les yeux fermés pour ne pas sentir la colère d'une vie qu'on n'a pas vu passer. À 50 ans, j'aurai 20 ans et des poussières, de crédit, 3 passe-temps, 10 raisons de tout foutre en l'air. À 50 ans, j'aurai 20 ans et des poussières, 3 amants, un amant, une résidence secondaire. À 50 ans, la gamberge comme étendard des Playmobil dans le standard, 2600 trajets de métro, 4 gamelles en moto, du gastro et un cancer, 17 de grippe et un ulcère, 3000 mensonges, 3 d'adultère, 1400 appels de ma mère, et puis à toi et moi, dans le petit salon qui dit où c'est qu'on va. Je t'aime encore, mais bon, après 500 disputes et de séparation, une lettre sur le lit, juste un petit pardon. Juste un petit pardon. Et puis, y'a toi, et moi, et nos 3 enfants, encore 10 ans, et puis la retraite, encore 30 ans, et c'est fini. Et puis y'a moi, et toi, que je regarde partir, 4 sextos, 500 capotes, 7000 aventures dans ce lit. Un plan à 3, 10 000, je t'aime, un petit tour, et c'est fini. À 50 ans, j'aurai 20 ans et des poussières, de crédit, 3 passe-temps, des raisons de tout foutre en l'air. À 50 ans, j'aurai 20 ans et des poussières, 3 amants, un amant, une résidence secondaire. À 50 ans, moi je n'irai jamais, dis-moi maman, quand est-ce qu'on est arrivé à 50 ans? Je ne veux pas y aller, je me mettrai sur le côté pour regarder les gens passer.